L'autobus du paradis, chapitres 10 et 11. Une autre conversation attira notre attention. « C'est hors de question, entièrement hors de question !» disait une femme fantôme à l'un des esprits féminins. « Je ne songerai pas un seul instant à rester si je devais m'attendre à rencontrer Robert. Naturellement, je suis prête à lui pardonner, mais il m'est impossible d'aller plus loin. Je me demande d'ailleurs comment il peut bien se trouver ici. » « Mais c'est votre affaire. »« Puisque tu lui as pardonné, je présume que... » L'autre l'interrompit. « Comme chrétienne, je lui pardonne. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. »«
Je ne comprends pas, » commença la femme lumineuse.
« En effet, » interrompit l'autre avec un petit rire, « tu n'as jamais compris. Tu as toujours cru que Robert ne pouvait rien faire de mal. S'il te plaît, ne m'interromps pas. Tu n'as pas la moindre idée de ce que j'en ai vu avec ton cher Robert. L'ingratitude personnifiée. C'est pourtant moi qui ai fait de lui un homme. Je lui ai sacrifié toute ma vie. Et quelle a été ma récompense? Un égoïsme total et sans limite. Non, écoute. Quand je l'ai épousé, il perdait son temps à bricoler pour à peu près 600 livres par an. Et note bien mes paroles, Hilda. Il aurait continué à faire de même jusqu'au jour de sa mort si je n'avais pas été là. Il a fallu que je le pousse à chaque pas. Il n'avait pas le moindre atome d'ambition. Autant soulever un sac de charbon. J'ai dû positivement le harceler avant qu'il se décide à accepter ce travail supplémentaire dans un autre service. Or, c'est ce qui a été pour lui le commencement de tout. Ah, cette paresse des hommes! Il disait, écoute-moi bien, qu'il ne pouvait pas travailler plus de 13 heures par jour. Comme si moi je ne travaillais pas beaucoup plus. Mon travail à moi n'était jamais fini, même quand le sien l'était. Je devais veiller sur lui tous les soirs. Tu comprends ce que je veux dire? Si je l'avais laissé faire, une fois le dîner fini... Il se serait affalé dans un fauteuil et enfermé dans un silence boudeur. C'est moi qui devais le faire sortir de lui-même, l'égayer en lui faisant la conversation, sans aucune aide de sa part, naturellement. Parfois, il ne m'écoutait même pas. Comme je lui disais, j'aurais cru qu'au moins les bonnes manières, à défaut d'autre chose, mais il semblait avoir oublié que j'étais une dame, même si j'avais accepté de l'épouser, et que tout le temps je musais les doigts jusqu'à l'os pour lui, sans m'attirer pour cela, ne fût-ce qu'un simple merci. Je passais des heures à ranger des fleurs pour donner une apparence plaisante à notre vilaine petite maison. Et au lieu de me remercier, tu sais ce qu'il me disait? Qu'il souhaitait que je n'en couvre pas le bureau quand il voulait s'en servir. Un soir, il a fait tout un plat parce que j'avais renversé un vase sur certains de ses papiers, mais ça n'avait aucune importance, car ses papiers n'avaient rien à voir avec son travail. L'imbécile s'était mis en tête d'écrire un livre, comme s'il en était capable. J'ai fini par le guérir de cette lubie. Non, Hilda, tu dois m'écouter. Les ennuis que j'ai eus quand j'ai voulu me mettre à recevoir. L'idée de Robert, c'était de s'échapper de temps en temps pour aller voir ce qu'il appelait ses vieux amis, et de me laisser toute seule. Mais je savais que ses amis ne lui feraient pas de bien. « Non, Robert, disais-je, tes amis sont maintenant les miens. Il est de mon devoir de les accueillir ici, même si je suis fatigué et si nous ne pouvons pas leur offrir grand-chose. On aurait pu penser que ça n'irait pas plus loin, mais ils vinrent bel et bien pendant un bout de temps. C'est alors que j'ai dû montrer du tact. Une femme qui a de la présence d'esprit peut toujours glisser un mot de temps en temps. Ce que je voulais, c'était que Robert les voie dans un cadre différent. Il ne semblait pas à l'aise dans mon salon. » Et ils n'y paraissaient pas à leur avantage. Je ne pouvais pas m'empêcher d'en rire, parfois. Naturellement, Robert non plus n'était pas à l'aise. Et aussi longtemps que dura le traitement, mais c'était pour son bien. Il n'a pas fallu un an pour que ses prétendus amis le quittent. C'est alors qu'il a eu son nouvel emploi. Un avancement qui en valait la peine. Mais, le croiras-tu, au lieu d'admettre qu'enfin nous avions quelque chance de nous agrandir un tant soit peu, tout ce qu'il a trouvé à dire fut... « Et maintenant, pour l'amour de Dieu, fiche-moi un peu la paix. » Cela m'a presque démoli. J'ai été tenté de l'envoyer promener. Mais je savais où était mon devoir. Et j'ai toujours fait mon devoir. Tu n'imagines pas combien j'ai dû lutter pour lui faire accepter l'idée d'une maison plus grande et pour en trouver une. Je ne lui en aurais pas voulu un brin, si seulement il avait pris les choses du bon côté, s'il avait su voir ce que cela avait d'amusant. S'il avait été un autre homme... Ça aurait été un plaisir pour moi de l'accueillir le soir sur le seuil, lorsqu'il revenait de son bureau, et de lui dire « Allons, Bob, nous n'avons pas le temps de dîner ce soir. On m'a justement parlé d'une maison près de Watford. J'en ai obtenu les clés. Nous pouvons aller la voir et être de retour à 1 heure. » Mais avec lui, c'était vraiment sinistre, Hilda. À cette époque-là,
ton cher Robert, était devenu l'homme qui ne pense plus qu'à manger. Finalement, j'ai pu l'emmener voir la nouvelle maison. Oui, je sais, c'était un peu plus que ce que nous pouvons nous permettre à ce moment-là, mais le succès s'ouvrait devant lui. Et bien sûr, j'ai pu commencer à recevoir comme il convient. Mais Dieu merci, plus de gens tels que ses amis. Tout cela, je le faisais pour lui. Toutes les amitiés utiles qu'il a contractées, c'est à moi qu'il les a dues. Naturellement, je devais être bien habillé. Ces années-là auraient dû être les plus heureuses de notre vie à tous deux. Si elles ne l'ont pas été, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. C'était un homme à vous rendre folle, à vous rendre folle, je te le dis. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est à devenir vieux, taciturne, maussade. Il se renfermait en lui-même. S'il avait voulu se donner un peu de mal, il aurait pu paraître 10 ans plus jeune. Il n'avait pas besoin de marcher tout voûté. Je l'ai assez souvent sermonné à ce sujet. Pas d'homme plus incapable que lui de jouer un rôle de maître de maison. Quand nous donnions une réception, tout retombait sur moi. Robert n'était qu'un vieux rabat-joie. Pourtant, il n'avait pas toujours été comme ça. Et si je ne lui ai pas répété 100 fois, je ne lui ai pas dit 1 fois. Il y avait eu un temps où il s'intéressait à toutes sortes de choses et où il demandait qu'à se faire des amis. « Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver ?» lui répétais-je. Mais il ne me répondait plus. Il s'asseyait, fixait sur moi des yeux hagards. J'ai horreur des hommes qui ont les yeux noirs. Et je le sais maintenant, il me détestait. Ce fut là toute ma récompense. Après tout ce que j'avais fait, la haine, pure et simple, la haine sans raison. Et cela, juste au moment où il était plus riche qu'il n'avait jamais rêvé de le devenir. Je lui disais, « Robert, tu te laisses aller. Le jeune gens qui venait nous voir, ce n'est pas ma faute s'il m'aimait mieux que mon ours de mari. Ces jeunes gens riaient sous cap en le voyant. J'ai fait mon devoir, jusqu'au bout. Je l'ai forcé à prendre de l'exercice. Et ce fut pour ce motif surtout que j'ai voulu garder un grand Danois. J'ai continué à donner des réceptions. Je l'ai emmené en vacances, de superbes vacances. J'ai veillé à ce qu'il ne boive pas trop. Même quand tout semblait désespéré, je l'ai encouragé à reprendre la plume. Cela ne pouvait plus lui faire de mal. Qu'est-ce que j'ai peur si, finalement, il a fait une dépression nerveuse? Ma conscience ne me reproche rien. Si jamais une femme a fait son devoir à l'égard de son mari, c'est bien moi. Donc, tu vois, Hilda, qu'il me serait impossible. Pourtant, je ne sais pas. Je crois bien que j'ai changé d'avis. Je vais leur faire une proposition honnête. Je ne veux toujours pas le rencontrer, s'il ne s'agit que de le rencontrer, rien de plus. Mais si on me donne toute liberté, je veux bien me charger de nouveau de lui. Je reprendrai mon fardeau. Mais il faut qu'on me laisse toute liberté. Avec tout le temps qu'on a ici, je crois que je pourrais arriver à en tirer quelque chose. Seulement, il me faudrait un endroit où nous serions vraiment seuls. Une bonne idée, n'est-ce pas? Il n'est pas capable de se suffire à lui-même. Qu'on me permette de le prendre en charge, il a besoin d'être mené d'une main ferme, et je le connais mieux que vous autres. Qu'est-ce que c'est? Non, je te dis de me le donner. Entends-tu? Ne lui demande pas son avis à lui. Je suis sa femme, après tout. Je n'ai fait que commencer le travail. Il y a encore des tas et des tas de choses que je voudrais lui faire faire. Voyons, écoute-moi, Hilda, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis si malheureuse. Il me faut quelqu'un à qui je puisse faire. C'est effroyable, là, en bas. Personne ne se soucie de moi. Je n'arrive pas à l'échanger. C'est affreux de voir tout ce monde inactif autour de soi et d'être incapable d'en tirer quelque chose. Rendez-le-moi. Pourquoi faudrait-il que tout marche à sa guise? Ce n'est pas bon pour lui, cela. Ce n'est pas juste, pas normal. Il me faut Robert. Vous n'avez pas le droit de le garder. Je vous déteste. Comment pourrais-je faire tout mon devoir à son égard si vous ne me le laissez pas? La femme fantôme, qui s'était lentement élevée de terre comme la flamme d'une chandelle qui se meurt, sembla soudain éclater avec un bruit sec. Une odeur âcre, désagréable, flotta un moment dans l'air, puis on ne vit plus rien. Une des scènes les plus pénibles dont nous fûmes témoins eut pour acteur une autre femme fantôme et un esprit lumineux qui apparemment avait été son frère. L'un et l'autre venaient à peine de se rencontrer quand nous passâmes auprès d'eux, car j'entendis la femme s'écrier avec un désappointement non dissimulé « Oh, c'est toi, Réginald, toi !»« Mais oui, ma chérie, je sais que tu t'attendais à voir arriver quelqu'un d'autre. Peux-tu... J'espère que tu n'es tout de même pas trop mécontente de me voir, du moins pour le moment. » Je croyais vraiment que Michel allait venir. murmura la femme fantôme. Puis, avec une sorte d'énergie farouche, « Il est ici, naturellement.
Il est là-bas, très haut, dans les montagnes.
Pourquoi n'est-il pas venu à ma rencontre? N'était-il donc pas au courant?
Ne te tourmente pas, ma chérie. Tout ira bientôt pour le mieux.
Mais avec Michel, cela n'aurait pas marché, pas tout de suite. S'il était venu, il n'aurait pu ni te voir ni t'entendre dans l'état où tu es à présent.
Tu serais pour lui totalement invisible, mais nous allons te donner de la consistance.
J'aurais cru que si toi tu pouvais me voir, mon propre fils l'aurait pu aussi.
Ce n'est pas toujours ainsi que les choses se passent. Tu sais, moi, je suis spécialisé dans ce genre de travail.
Il s'agit donc de travail, fit le fantôme d'un ton hargneux.
Puis, après une pause, alors, quand me permettra-t-on de le voir?
Il n'est pas question de permission, Pamela. Dès qu'il lui sera possible de te voir, il viendra, bien sûr. Mais pour cela, il faut que tu prennes un peu plus de consistance.
Comment? Demanda sèchement la femme, avec comme une menace dans la voix.
Le premier pas est toujours difficile, je le crains, répondit l'esprit. Mais après cela, tu avanceras à pas de géant. Dès que tu auras appris à désirer un autre en plus de Michel, tu deviendras assez opaque pour que Michel puisse percevoir ta présence. Je ne dis pas désirer plus que lui, du moins pas au commencement. Cela viendra plus tard. Mais pour que le processus du développement se déclenche, il n'est besoin que d'une chose, un tout petit germe de désir de Dieu.
Voilà maintenant que tu te mets à me parler religion. C'est bien le moment, et cela vient de toi.
Enfin, ne t'inquiète pas, je ferai tout ce qui sera nécessaire. Que veux-tu que je fasse?
Allons-y. Plutôt je commence, plutôt on me laissera voir mon fils. Je suis prête.
Mais enfin, Pamela, réfléchis donc un peu. Ne vois-tu pas que tu ne feras même pas le premier pas, aussi longtemps que tu resteras dans cet état d'esprit? Dieu n'est pour toi qu'un moyen de revoir ton Michel. Or ici, tout le traitement consiste à apprendre à désirer Dieu pour lui-même.
Tu ne me parlerais pas ainsi si tu étais une mère.
Tu veux dire si j'étais seulement une mère. Mais cela n'existe pas d'être seulement une mère. Si tu es la mère de Michel, c'est d'abord parce que tu es une créature de Dieu. Cette relation est antérieure et elle est bien plus étroite.
Non, écoute-moi, Pamela.
Ton Dieu aime lui aussi. Lui aussi a souffert. Lui aussi a attendu longtemps.
S'il m'aimait, il me laisserait voir mon fils.
S'il m'aimait, pourquoi donc me l'a-t-il pris?
Je n'avais pas l'intention de parler de cela, mais c'est bien difficile à pardonner, tu sais.
Il devait te prendre Michel, premièrement pour le bien de ton fils.
Je suis sûr d'avoir fait de mon mieux pour rendre Michel heureux. Je lui ai voué toute ma vie.
Les humains ne peuvent pas se rendre vraiment heureux les uns les autres, du moins pas longtemps. Deuxièmement, c'est pour ton bien à toi aussi que Michel t'a été repris. Ton amour pour ton enfant était purement instinctif. Les tigresses aussi ont cet amour-là. Dieu voulait qu'il se transformât en quelque chose de meilleur. Il voulait que tu aimes Michel de la manière dont il comprend, lui, l'amour. On ne peut pas aimer pleinement une créature aussi longtemps qu'on n'aime pas Dieu. Parfois, la nécessaire conversion se produit alors que l'amour instinctif est encore comblé. Mais il semble que dans ton cas, il n'y avait aucune chance que cela arrivât. L'instinct était chez toi incontrôlé, farouche, c'était une obsession.
Demande plutôt à ta fille, à ton mari, demande à ta mère, as-tu jamais pensé à elle?
Il n'y avait donc qu'un remède, c'était d'enlever son objet à cet amour, une opération chirurgicale, quoi. Une fois cet amour contrarié, il y avait quelque espoir que, dans la solitude, dans le silence, quelque chose d'autre puisse commencer à naître.
Tout ça, c'est de l'absurdité. Une absurdité méchante et cruelle. Qu'est-ce qui te donne le droit de dire de pareilles choses de l'amour maternel? C'est le plus noble, le plus sacré de tous les sentiments.
Pamela, Pamela, un sentiment naturel n'est ni noble, ni bas, ni sacré, ni profane en lui-même. Tous deviennent saints quand la main de Dieu les dirige, tous se dégradent quand ils s'établissent de façon autonome et s'érigent eux-mêmes en faux dieux.
Mon amour pour Michel ne se serait jamais dégradé, jamais, même si nous avions vécu ensemble pendant des millions d'années.
Tu te trompes, Pamela, et il faut que tu le saches. N'as-tu pas rencontré Là-bas, en enfer, des mères qui ont leurs fils avec elles, est-ce que leur amour les rend heureuses ?
Oh, si tu veux parler de femmes comme la Guthrie avec son odieux Bobby, non, bien sûr. Mais j'espère que tu ne veux pas dire. Si j'avais Michel avec moi, je serais parfaitement heureuse, même dans cette ville. Je ne ferais pas comme cette Winfred Guthrie, qui est sans cesse à parler de son môme, tant et si bien que les gens en arrivent à ne plus pouvoir supporter d'entendre même prononcer son nom. Je ne me disputerai pas avec ceux qui ne font pas assez attention à lui, et je ne serai pas furieusement jalouse de ce qu'ils font. Je n'irai pas partout gênant et me plaignant de ce qu'il n'est pas gentil pour moi. D'ailleurs, il le serait gentil, c'est évident. Surtout, ne viens pas me dire que Michel pourrait devenir comme Bob Guthrie. Il y a des choses que je ne supporte pas d'entendre.
Ce que tu as constaté chez les Guthrie est ce qui se produit quand l'amour maternel n'est pas sublimé.
Mensonge, odieux mensonge. Comment une mère pourrait-elle aimer son fils plus que je ne l'ai fait? Est-ce que je n'ai pas vécu uniquement de son souvenir ces dernières années?
Eh bien, ce fut là justement une erreur, Pamela. Au fond de toi-même, tu le sais bien.
Qu'est-ce qui fut une erreur?
Tout ce rituel de deuil que tu as observé pendant 10 ans, garder sa chambre exactement dans l'état où elle était quand il l'a laissée, célébrer ses anniversaires, refuser de quitter cette vieille maison où tu savais que Dick et Muriel étaient malheureux.
Ah, cela, bien sûr, il s'en fichait. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que je ne devais attendre aucune sympathie vraie de leur part.
Tu te trompes, nul homme n'a été affecté plus que Dick par la perte de son fils, et il n'y a pas beaucoup plus de filles qui aient aimé leur frère autant que Muriel. Ce n'est pas contre Michel qu'ils se sont révoltés, c'est contre toi. C'est contre un passé tyrannique qui dominait toute leur existence. Et ce passé n'était pas réellement le passé de Michel, c'était ton passé à toi.
Tu n'es qu'un sans-cœur. Tout le monde est sans-cœur. Je n'avais rien d'autre à moi que ce passé.
Je dis plutôt que c'est là ce que tu as choisi d'avoir. Mais ce n'était pas ainsi que tu devais te comporter avec ta peine. Tu as fait comme les Égyptiens. Tu as embaumé ton fils mort.
Naturellement, j'ai tort. Tout ce que je dis ou fais est une erreur, selon toi.
Mais oui, bien sûr, dit l'esprit. Et à ce moment, l'amour et la joie rayonnaient de lui avec une telle force que mes yeux en furent éblouis. C'est bien ce que nous avons tous découvert quand nous sommes arrivés dans ce pays. Nous avons tous eu tort. C'est ce qui est drôle. Et il ne sert à rien de continuer à prétendre que nous avions raison. C'est alors que nous pouvons commencer à vivre.
Commences-tu à rire de tout cela ? Rends-moi mon fils, entends-tu? Je me fiche de toutes vos lois et de vos règlements. Je ne crois pas en un Dieu qui tient une mère séparée de son fils. Je crois en un Dieu d'amour. Personne n'a le droit de se mettre entre moi et mon fils. Pas même Dieu. Va le lui dire en face. Je veux mon fils et j'entends l'obtenir. Il est à moi. Ne comprends-tu pas? À moi. À moi. À moi pour toujours.
Il le sera, Pamela. Tout sera à toi. Dieu même sera à toi. Mais pas de cette manière. Rien n'est à toi par droit de nature.
Quoi? Pas même mon propre fils, né de mon propre corps.
Où est-il ton corps maintenant? Ne t'a-t-on pas appris que la nature touche à sa fin? Regarde, le soleil va se montrer là-haut, par-dessus les montagnes. Le moment est proche où il fera son apparition.
Michel m'appartient.
De quelle façon? Est-ce toi qui l'as fait? C'est la nature qui l'a fait naître et grandir dans ton corps. Ta volonté n'y a eu aucune part, elle y était même opposée. Tu sembles oublier qu'à ce moment-là, tu ne voulais pas d'enfant. À l'origine, Michel a été un accident.
« Qui t'a dit cela ?» lança le fantôme.
Puis se reprenant, « C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, cela ne vous regarde pas.
Je déteste votre religion. Je hais et je méprise votre Dieu. Je crois, moi, en un Dieu d'amour. »
Et pourtant, Pamela, en ce moment même, tu n'as nul amour, ni pour ta propre mère, ni pour moi.
Ah, je vois, c'est cela qui t'ennuie. Vraiment, Reginald, penser que tu es vexé parce que...
L'esprit partit d'un grand rire. Seigneur Tout-Puissant, ne t'inquiète pas pour ça. N'as-tu donc pas compris que dans ce pays, on ne peut vexer personne? Le fantôme resta bouche bée pendant un moment. Ce qu'on venait de lui dire pour la rassurer semblait l'avoir complètement décontenancé. « Viens, » dit mon maître, en posant la main sur mon bras. « Continuons un peu notre route. »« Pourquoi m'avez-vous entraîné loin d'eux ?» demandai-je quand nous fûmes hors de portée. Cette conversation peut se prolonger longtemps encore, me répondit-il, et tu en as entendu assez pour comprendre en quoi consiste le choix ici.
Y a-t-il quelque espoir pour cette femme, à votre avis ?
Oui, il y en a. Ce qu'elle appelle son amour pour son fils est devenu une pauvre chose amère, pleine de piquants. Mais il y a tout de même là-dessous une petite étincelle d'autre chose qu'elle-même. En soufflant dessus, on pourra peut-être ranimer la flamme.
Il y a donc des sentiments naturels qui valent mieux que d'autres, je veux dire, qui constituent un point de départ meilleur.
Meilleur et pire, il y a dans une affection naturelle quelque chose qui peut conduire à l'amour éternel plus facilement que n'importe quel autre appétit naturel. Mais il s'y trouve aussi quelque chose qui peut faire qu'on s'arrête au niveau naturel en se croyant au niveau céleste. On prend le cuivre pour de l'or plus facilement que l'argile. Et si l'amour refuse de se laisser convertir, sa corruption devient pire que ce que nous appelons les passions viles ou dégradantes. C'est un ange plus fort et donc, quand il tombe, c'est un démon plus féroce.
Je me demande, monsieur, si j'oserai jamais répéter cela sur la terre. Ils diront que je ne suis pas humain, que je crois à la corruption totale, que j'attaque les choses les meilleures et les plus saintes. Ils m'appelleront « Cela ne te ferait peut-être pas de mal », dit mon maître, et je crus voir ses yeux pétiller de malice.
Mais comment oser, comment avoir l'audace de dire cela à une mère qui a perdu son enfant, alors que soi-même...
Personne ne te demande cela, mon fils. Tu n'es pas prêt pour une telle mission. Il faut d'abord que ton cœur à toi soit brisé par la souffrance. Alors tu pourras penser à parler. Mais il faut aussi que quelqu'un se lève pour dire ce que personne chez vous n'a plus osé dire depuis bien des années, à savoir que l'amour, au sens que les mortels donnent communément à ce mot, ne suffit pas.
Tout amour naturel ressuscitera et vivra à jamais dans ce pays-ci. Mais nul ne ressuscitera s'il n'a pas d'abord été enseveli.
Cette parole est presque trop dure pour nous.
Eh oui, mais il serait plus cruel de ne pas la dire. Ceux qui savent sont devenus trop craintifs pour parler. Voilà pourquoi les souffrances qui autrefois purifiaient ne font plus maintenant que corrompre.
Keats se trompe donc quand il dit être certain de la sainteté des sentiments du cœur.
Je me demande s'il savait seulement de quoi il parlait, mais toi et moi, nous devons être clairs. Nul n'est bon que Dieu seul. Tout autre être n'est bon que s'il est orienté vers lui. Il est mauvais s'il s'en détourne, et ce qu'il y a de plus haut et de plus fort dans l'ordre de la nature devient le plus démoniaque lorsqu'il se rebelle. Ce n'est pas avec des méchantes souris ou des mauvaises puces que l'on fait des démons, mais avec des archanges révoltés. La fausse religion du sexe est plus vile que la fausse religion de l'amour maternel, ou du patriotisme, ou de l'art, mais on fait moins facilement du sexe une religion. Mais regarde.
Je vis arriver dans notre direction un fantôme qui portait quelque chose sur son épaule. Comme tous les fantômes, il était sans substance, mais il y avait entre eux des différences comme entre diverses sortes de fumées. J'en avais vu qui étaient blanchâtres. Celui-ci était noir et huileux. Ce qu'on y voyait sur son épaule était un petit lézard rouge. Il agitait sa queue comme un fouet et soufflait quelque chose à l'oreille de celui qui le portait. Quand il s'aperçut que nous le regardions, le spectre tourna la tête vers le reptile avec un grognement d'impatience.
« Tais-toi, je te dis !»
L'animal remua la queue et continua à chuchoter. Le spectre, lui, cessa de grommeler et se mit à sourire. Puis il reprit sa marche et se dirigea en clopinant vers l'ouest, tournant donc le dos aux montagnes.
« Tu pars, déjà ?» fit une voix.
Celui qui parlait ainsi avait plus ou moins les apparences d'un homme, mais en plus grand. Il émanait de lui une telle lumière que je pouvais à peine le regarder. Sa présence heurtait mes yeux et tout mon corps, car la chaleur en rayonnait en même temps que la lumière, comme le soleil d'un brûlant matin d'été.
« Oui, je m'en vais, » dit le spectre. « Merci pour votre hospitalité. » Mais cela ne marche pas. J'avais bien dit à ce petit bonhomme, il montra le lézard, qu'il devrait se tenir tranquille s'il venait. Et il a voulu à tout prix venir. Naturellement, sa place n'est pas ici, je le sais bien. Mais il ne restera pas. Je l'emmène à la maison.
Aimerais-tu que je le fasse taire ? Dit l'esprit flamboyant. C'était un ange, je le compris cette fois.
Bien sûr. « Alors, je vais le tuer, » dit l'ange en faisant un pas en avant.
« Ah, mais faites attention, vous me brûlez, n'approchez pas davantage !»
Et le spectre esquissa un mouvement de retraite.
« Ne veux-tu pas que je le tue ?»«
Vous n'avez pas parlé d'abord de le tuer. Je n'ai jamais eu l'intention de vous ennuyer en vous demandant quelque chose d'aussi énergique. »
« Il n'y a pourtant que ce moyen, » dit l'ange, dont les mains brûlantes se faisaient maintenant toutes proches du lézard. « Dois-je le tuer ?»«
La question se pose. Je suis prêt à l'examiner. Mais c'est là du nouveau pour moi, n'est-ce pas ? Je veux dire que pour l'instant, je pensais seulement à le faire taire, parce que ici, enfin, il est fichtrement gênant.
Puis-je le tuer ?
Mon Dieu, nous avons le temps de discuter cela plus tard. »
« Nous n'en avons pas le temps. Puis-je le tuer ?»«
Excusez-moi, je ne voulais vraiment pas vous ennuyer avec ça, mais ne vous en faites pas, je vous en prie. Voyez d'ailleurs, il s'est endormi. Je suis sûr que tout ira bien maintenant. Merci de tout cœur. »«
Puis-je le tuer ?»«
Sincèrement, je n'en vois pas la nécessité. Je suis sûr que j'arriverai à l'assagir. Je pense qu'il vaut mieux y aller progressivement plutôt que de le tuer. »
« Y aller progressivement ne servirait rigoureusement à rien.
Croyez-vous ? Eh bien, je vais penser sérieusement à ce que vous venez de dire. Sincèrement, je vais y penser. En fait, je vous laisserai bien faire tout de suite, mais je dois vous avouer que je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Ce serait idiot de faire ça maintenant. J'ai besoin d'être en pleine forme pour l'opération. Disons, un autre jour. »
« Il n'y a pas d'autre jour. Tous les jours sont présents en ce moment. »
« Écartez-vous, vous me brûlez. Comment pourrais-je vous dire de le tuer ? Vous me tuerez moi aussi ?»«
Certainement pas. »«
Mais vous me faites déjà mal. » »«
Je n'ai pas dit que cela ne vous ferait pas mal. J'ai dit que cela ne vous tuerait pas. » »«
Oui, je sais, vous pensez que je ne suis qu'un lâche. Ce n'est pas ça pourtant. Laissez-moi partir, reprendre le bus du soir et demander l'avis de mon médecin. Je reviendrai aussitôt que possible. »
Le moment où nous sommes contient tous les moments possibles.
Pourquoi me mettre à la torture ? Vous vous moquez de moi. Comment puis-je vous laisser me réduire en pièces ? Si vous êtes vraiment venu pour m'aider, pourquoi n'avez-vous pas tué cette sacrée bête à mon insu, sans rien me demander ? Tout serait fini maintenant.
Je ne peux pas le tuer contre votre gré. C'est impossible. M'en donnez-vous maintenant la permission ?
Les mains de l'ange se fermait presque sur le lézard, mais pas tout à fait. Celui-ci se mit à parler si fort à son fantôme que je pus l'entendre.
« Prends bien garde, » disait-il. « Il est capable de faire ce qu'il dit. Un seul mot de toi, et il me tue. Après, tu devras te passer de moi pour toujours. C'est contre nature. Comment pourrais-tu vivre ? Tu ne serais plus qu'une sorte de fantôme, et non plus un homme bien réel, comme tu l'es maintenant. Lui ne peut pas comprendre. C'est un être froid, abstrait, insensible. » Ce qui lui paraît naturel ne l'est pas pour nous.
Oui, oui, je sais, il n'y a pas de vrai plaisir pour le moment, il n'y a que des rêves, mais n'est-ce pas mieux que rien ?
Et je serai si sage. Je reconnais que, dans le passé, j'ai parfois été trop loin, mais je te promets que je ne recommencerai pas. Je ne te donnerai que des rêves agréables, des rêves doux, pleins de fraîcheur, des rêves innocents, ou presque, on peut même dire tout à fait innocents.
Ai-je votre permission ? Réitéra l'ange. «
Je sais que cela va me tuer.
Je vous ai déjà dit que non, mais à supposer que cela arrive. »
« Vous avez raison. Mieux vaut être mort que de vivre avec cette maudite bête.
Donc vous me le permettez. »
« Mes sacrés bon sang, allez-y, qu'on en finisse. Faites ce que vous voulez, »
vociféra le fantôme. Puis il ajouta dans un gémissement,
« Que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. »
L'instant d'après, il poussa un cri de souffrance tel que je n'en ai jamais entendu sur terre. Le brûlant referma sa main couleur de pourpre sur le reptile et l'arracha d'une torsion, tandis que l'animal mordait et se débattait. Puis il le lança le dos brisé sur le gazon.
« Ouf ! Voilà qui est fait !»
murmura le spectre dans un souffle, et il recula en chancelant. Durant quelques instants, je ne distinguais plus rien. Puis je commençai à voir entre moi et le buisson le plus proche, incontestablement opaque et le devenant de plus en plus, le bras et l'épaule d'un homme. Ensuite parurent les jambes et les mains, plus brillantes encore et plus fortes, le cou et une tête qui semblaient d'or pur, se matérialisèrent devant moi. Et si mon attention n'avait pas été distraite par autre chose, j'aurais contemplé en entier l'édification d'un homme immense, nu, atteignant presque la stature de l'ange. Ce qui m'avait distrait, c'est qu'en même temps, quelque chose semblait arriver au lézard. Au premier moment, je crus que l'opération n'avait pas réussi. Loin d'être morte, la créature se débattait encore. Et plus elle se débattait, plus elle grossissait. Et en grossissant, elle se transformait. Son arrière-train s'arrondissait. Sa queue, qui avait continué à frétiller, devenait peu à peu une masse de crins, plantée sur une large croupe lustrée. J'eus un sursaut et me frottai les yeux. Ce que j'avais devant moi, c'était le plus grand étalon que j'eusse jamais vu. Il était d'un blanc d'argent, mais sa crinière et sa queue semblaient en or. Sa peau était lisse et brillante, et l'on voyait onduler par-dessous sa puissante musculature. Il hennissait, piaffait. À chaque coup de ses sabots, la terre tremblait et les arbres frémissaient. L'homme nouveau se retourna et donna une tape amicale sur le cou du cheval. Celui-ci flaira son corps brillant. Cheval et maître se soufflèrent mutuellement dans les narines. Puis l'homme se détourna un moment, se jeta aux pieds du brûlant et les embrassa. Quand il se releva, il me parut que sa figure était mouillée de larmes. Mais ce pouvait être aussi l'amour qui en rayonnait comme un flot de liqueur dorée. Je n'eus d'ailleurs pas le temps de me poser beaucoup de questions. Avec une hâte joyeuse, le jeune homme sauta d'un bond sur le dos de l'animal. Se retournant, il fit de la main un geste d'adieu, puis toucha de ses talons les flancs de la bête. Je n'avais pas encore réalisé ce qui se passait, que déjà le cheval s'élançait au galop. Une chevauchée, s'il en fut. Je me faufilai aussi vite que je le pus hors des buissons pour suivre des yeux la monture et son cavalier. Mais il n'était déjà plus qu'une étoile filante, bien loin dans la plaine verdoyante, et bientôt ils atteignirent le pied du massif montagneux. Puis je les vis monter en zigzag, escaladant toujours plus vite des pentes incroyablement escarpées, atteignant enfin le sommet, ce sommet dont le contour indistinct se profilait si haut dans l'espace que je dus tendre le cou pour continuer à les apercevoir. Ils disparurent enfin, tout lumineux, dans la lumière rose de l'éternel matin. Tandis que je regardais encore, je remarquai que la plaine et la forêt tout entière étaient secouées par un son dont l'amplitude eût été dans notre monde proprement intolérable et qui ici me remplissait de joie. Ce n'était pas le chant des êtres opaques, je le savais, c'était la voix de cette terre, celle de ses bois et de ses eaux. Un son étrange, brut, qui semblait monter du fond des âges et qui venait de toutes les directions à la fois. La nature, la surnature de ce pays, clamait sa joie d'avoir été une fois de plus parcourue par le cheval et son cavalier, et d'avoir atteint par là sa parfaite réalisation. Elle disait « Le maître a dit à notre maître, viens partager mon repos jusqu'à ce que tout ce qui, dans la nature, a été ton ennemi, devienne ton esclave et danse devant toi, t'offre son dos pour une chevauchée, soit un appui ferme à tes pieds pour qu'ils y reposent. D'au-delà les lieux et les temps, du lieu véritable, l'autorité te sera donnée. Les forces qui jadis se sont opposées à ton vouloir deviendront un feu docile dans ton sang, un tonnerre céleste dans ta voix. Sois notre vainqueur, afin que, ainsi vaincus, nous puissions être nous-mêmes. Ton règne, nous le désirons tous, comme nous désirons l'aurore, comme nous désirons la rosée à la naissance de la lumière. Ô maître, ton maître a fait de toi pour toujours notre roi de justice et notre grand prêtre. Comprends-tu tout cela, mon fils ? Demanda mon compagnon. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, monsieur, répondis-je. Ai-je raison de croire que le lézard a vraiment été changé en cheval ? Oui, mais il a d'abord été tué. N'oublie pas cette partie de l'histoire. Je tâcherai de ne pas l'oublier, mais est-ce que cela signifie que tout, absolument tout ce qui est en nous peut se frayer en chemin jusqu'aux montagnes? Il n'est rien, pas même ce qu'il y a de meilleur et de plus noble en vous, qui soit capable de faire ce voyage dans l'état actuel. Et il n'est rien, pas même ce qu'il y a de plus bas et de plus vil, qui ne soit capable de ressusciter à condition de passer par la mort. On est semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. La chair et le sang ne peuvent faire l'ascension des montagnes, non qu'il y ait en eux une impureté foncière, mais parce qu'ils n'en ont pas la force. Qu'est-ce qu'un lézard à côté d'un étalon? La concupiscence charnelle est une pauvre chose, faible, larmoyante et géniarde, si on la compare à la richesse, à la puissance du désir qui naît quand cette même concupiscence a été mise à mort. Mais vais-je leur dire, quand je serai rentré, que la sensualité de cet homme a été un obstacle moindre à sa transformation que l'amour de cette pauvre femme pour son fils? Ce qu'on pouvait lui reprocher à elle, c'était, au fond, un excès d'amour. « Ne va pas leur dire pareille chose, » répliqua mon maître d'un ton ferme. « Excès d'amour, as-tu dit. Dis plutôt défaut d'amour. Cette femme n'a pas aimé trop son fils, elle l'a aimé trop peu. Si elle l'avait aimé davantage, il n'y aurait pas eu de problème. J'ignore comment son affaire se terminera, mais il se peut qu'en ce moment elle soit en train de demander qu'on lui accorde de ramener son fils en enfer. Des gens comme elle sont parfois prêts à plonger ceux qu'ils disent aimer dans un abîme de misère, pourvu qu'ils puissent les posséder en quelque manière. Non, c'est une autre leçon que tu dois en tirer. Si le corps ressuscité du simple désir a pris les dimensions du cheval que tu as vu, qu'en sera-t-il de l'amour maternel ou de l'amitié quand ils renaîtront à une autre vie? Mais, une fois de plus, mon attention fut détournée. « Y a-t-il une autre rivière ?» demandai-je.